retrouvons Isabelle Retrouvée, dégustateur professionnel en vin qui anime toute l'année des ateliers de découverte de l'œnologie, sa grande passion. En balade dans les vignobles, elle nous fait découvrir un monde chargé d'histoire et de tradition, avec des vignerons amoureux de leur terre et respectueux de l'environnement. Émission réalisée par mes soins. Bienvenue sur Fréquence Mistral, nous avons le plaisir de retrouver Isabelle pour notre chronique œnologie.
Je vais me présenter, je suis dégustateur professionnel, j'ai effectué des études à l'université du vin. Ensuite, j'ai monté ma micro-entreprise qui s'appelle les ateliers œnolisa. J'exerce mes activités essentiellement dans le département des Hautes-Alpes où je réside. Ce qui est plaisant dans mon activité, c'est vraiment d'apprendre au plus grand nombre à mieux choisir un vin. Par exemple, quand on est dans les rayons du supermarché, on ne sait jamais quoi prendre. On choisit toujours ce qu'on connaît le mieux pour être sûr de ne pas se tromper. Donc mon objectif, c'est de faire déguster des vins d'une manière ludique, à l'aveugle, en cachant les étiquettes, pour s'affiner les papilles et apprendre à reconnaître des arômes, des saveurs, et surtout mieux parler d'un vin ensuite. On devient un consommateur beaucoup plus éclairé. Mes ateliers se déroulent chez les particuliers, ou les professionnels. Je me déplace à domicile, je peux aller autour d'un plan d'eau ou en bordure de forêt après une randonnée, profiter d'une vue panoramique. Et donc c'est vrai que quand on dresse une belle table, c'est toujours synonyme de partage, d'échange, de belles rencontres, dans une belle convivialité. Moi je continue à dire que tout le monde peut apprendre les bases de la dégustation, qu'on soit amateur ou débutant, même sans absorber une goutte, on laisse le vin en bouche et on voit surtout ce qui se passe au niveau gustatif, au visuel, et ce qui est très important, c'est l'olfactif. Ce sont vraiment les trois phases essentielles de la dégustation. C'est vrai que la vigne, le vin, c'est un monde infini. On peut aborder la diversité des cépages, des sols, des climats, des vents. On aborde la géologie, la géographie, le patrimoine local, aussi les accords de mai, vin. Et c'est vraiment fascinant. On fait un tour des terroirs, on voyage beaucoup. Il faut savoir qu'il y a environ 10 000 plants de vignes différents dans le monde. Commençons par le commencement. À quand remontent les premières vignes dans le monde? Alors, je voudrais dire tout d'abord que je transmets à nos auditeurs quelques connaissances rapides, mais je ne suis pas historienne, loin de là. Je souhaite juste éveiller la curiosité de chacun en la matière et je demande aux passionnés d'histoire de m'accorder toute leur indulgence.
On va parler de quand remonte l'origine de la vigne.
La vigne est plus ancienne que l'homme. C'est une plante préhistorique. Il y a des millions d'années, elle poussait bien sûr à l'état sauvage. C'est une liane qui peut atteindre des dizaines de mètres. Elle est rampante, elle peut courir le long des arbres. Mais c'était un grain de raisin qui était très petit et acide. Hein. D'ailleurs, si vous avez la chance de voyager un petit peu en France, moi je vous encourage à faire une pause dans nos musées parce que vous pourrez y trouver des vestiges de vignes fossilisées qui parfois datent de moins 65 millions d'années. Mais on a retrouvé des traces en Asie mineure de la vigne. Ça se situe en Géorgie, dans le Caucase, entre la mer Noire et la mer Caspienne. Grâce au long travail de recherche, les archéologues ont découvert des pépins de raisin en zone de montagne, et céramiques également avec des traces de vin à l'intérieur, datant de plus de 8000 ans. On peut dire vraiment que la domestication de la vigne par l'homme remonte à des temps fort, fort lointains. On a retrouvé également une fresque égyptienne sur un papyrus qui date de 4000 ans et qui témoignent que dans leur pharmacopée, il y avait une recette, par exemple, pour soigner le foie, base de vin. Le vin était considéré comme un produit de luxe. C'était un breuvage d'immortalité. Lors des cérémonies religieuses, il y avait des offrandes qui étaient faites aux dieux. Ensuite, on arrive à la Grèce antique, où le vin avait une telle importance qu'on a créé le dieu Dionysos. C'était la boisson des rois. Et les Grecs sont arrivés dans le sud de la Gaule, sur Massalia, l'actuelle Marseille. Et il y avait déjà un peu de vignes qui étaient cultivées par les Gaulois, mais les Grecs, on peut dire qu'ils ont amené avec eux l'art de la taille de la vigne, qui était limité jusqu'à présent au littoral par la plantation des oliviers, qu'on arrive ensuite à l'époque romaine, et chez les Romains, c'était le dieu Bacchus, le dieu du vin. Donc on a effectivement, l'Empire romain a implanté la vigne en Gaule, et le climat était beaucoup plus doux à l'époque. Hein. Par contre, pour rendre leur vin plus agréable, ils ajoutaient des aromates tels que le thym, la cannelle, des fleurs, des racines, du miel, et même de l'eau de mer. Si vous avez l'occasion de voyager un petit peu et d'aller à la fête médiévale de Briançon, qui a lieu tous les étés dans les remparts de Vauban, vous pourrez déguster la boisson d'Hippocras. Elle est composée de vin, de miel, de cannelle et de gingembre. C'est très intéressant à découvrir. Donc on arrive à la période du Moyen-Âge, où les seigneurs recevaient beaucoup dans leurs châteaux, ils faisaient des grands banquets, ils servaient des vins de prestige, et donc ce qui fait que les seigneurs acquièrent une renommée avec leur vin, et ils finissent par déléguer aux paysans la culture de la vigne, par des signatures de contrats, et ils leur laissent une partie du vignoble au bout de quelques années d'exploitation. Puis arrivent donc les grandes invasions, et là on a la production du vin qui s'effondre complètement. C'est là que dans les monastères, les abbayes, les moines deviennent très actifs dans le développement de la vigne, car le vin évidemment a un rôle fondamental dans la pratique religieuse. La communion était une charge émotionnelle pour les chrétiens en tant que nourriture spirituelle. Et on se rend donc vite compte à plusieurs niveaux de la société que le commerce du vin génère des ressources. Par contre, c'est encore du vin qui se boit dans l'année. Il faut l'écouler rapidement, donc les ports tiennent une place importante dans le succès du vin. Du coup, il faut améliorer les conditions de transport, les amphores qui étaient utilisées jusqu'à présent étaient fragilisées. Ce sont nos ancêtres les Gaulois qui ont inventé le tonneau en bois, qui est beaucoup plus pratique et résistant, parce que la poterie en terre cuite, ça se casse beaucoup plus facilement. Ensuite, nous arrivons à la bourgeoisie pour développer les nombreux vignobles plus proches des villes, et elles passent aux mains des citadins. Le commerce des vins bénéficiait d'une clientèle toujours considérable dans les pays du Nord, notamment aux Pays-Bas, en Angleterre. C'est vrai qu'au XIIe siècle, Bordeaux a appartenu à l'Angleterre avec Aliénor, la duchesse d'Aquitaine, qui épousa en seconde noce le futur roi d'Angleterre, Henri Plantagenet. La viticulture et le négoce du vin exercent une forte influence sur le développement des communes. Par conséquent, le souverain doit accorder des droits et des privilèges à l'autorité communale. C'est pourquoi l'histoire du vin est fréquemment liée aux événements politiques. Il y a eu des revendications sur l'abolition de certaines taxes pendant la Révolution française en 1789. Puis on arrive à la fin du 19e siècle, où il y a un bouleversement sans précédent dans l'histoire de la vigne, avec toutes les plantations et tous les vignobles qui se développent de manière exponentielle. On arrive aux parasites et aux maladies, dont le phylloxéra, qui est une histoire très importante et très triste, puisqu'il va falloir reconstruire tout le vignoble. Mais là, bon, c'est sur une autre histoire que je vous réserve dans une prochaine chronique. On passera alors à l'époque contemporaine.
Isabelle, c'est bientôt la Saint-Valentin.
Oui, tout à fait. C'est bientôt la Saint-Valentin, oui, le 14 février. Eh bien, c'est le moment d'enivrer vos papilles, de faire plaisir aux êtres aimés. Je vous propose des cartes cadeaux pour vos fêtes, pour les anniversaires, des cartes qui sont valables toute l'année. Il suffit de prendre rendez-vous et on peut se faire un joli atelier dégustation en plein air ou à la maison.